Paris, on use thermomètre ou
stade, c'est rendu qui se considère.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs, nous revenons sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions de Radio France Internationale. Ce soir pour la rédaction chinoise, Ninan Wang.
大家晚上好.
Claire Borderst de la rédaction anglophone.
Good evening.
Et Miguel Martins pour la rédaction lusophone.
Bonnet.
Bonsoir à vous tous. Alors cette semaine a été marquée par la demande officielle de la sortie de l'Union Européenne du Royaume-Uni. C'est le Brexit avec la mise en œuvre de l'article 50 du traité de Lisbonne. Bien évidemment, toutes les rédactions de RFI ont suivi le moment où la première ministre Theresa May a signé la lettre déclenchant officiellement ce retrait du pays de l'UE. La rédaction en anglais plus que toutes les autres, bien sûr, Claire Borderst.
Et oui, nous sommes bien sûr intéressés aux conséquences que cela aurait. Alors au niveau des liens commerciaux, comment ça allait se dérouler? Nous nous sommes penchés sur le droit des citoyens et puis cette fameuse facture, nous l'appelons en anglais la Brexit Bill, puisque Bruxelles a dit que le Royaume-Uni doit à l'Union près de 60 milliards d'euros, ce que bien entendu le Royaume réfute, clamant que la note est bien trop élevée, alors que maintenant que l'article 50 a été signé, l'horloge tourne, et qu'il le veuille ou non, le Royaume-Uni va devoir payer et ne va pas pouvoir repousser ce moment éternellement. Alors nous avons parlé à Simon Talfourd du Center for European Reform, une think tank londonienne qui explique que cela pourrait être, je cite, « potentiellement explosif au sein même du pays ».
It's a question of how much it pays.
Alors, que vous dit Simon Tilford?
Alors, il explique que le Royaume-Uni va devoir payer. La seule question, c'est à combien va s'élever la note et comment le gouvernement britannique va expliquer cette dépense, car Theresa May ne peut pas contenir les dégâts qu'elle ferait si elle disait simplement « Ok, je vais payer l'Union 35 milliards d'euros ». Politiquement, au Royaume-Uni, cela deviendrait complètement toxique. Mais d'un autre côté, si le Royaume-Uni ne paye pas, l'Union fera tout pour contrer les points principaux des négociations, notamment par rapport à tout ce qui touche le commerce.
Alors, il est également question du droit des citoyens, de la liberté de mouvement. Mais il y a un sujet qui vous touche directement, c'est l'avenir de l'Écosse.
Et oui, c'est encore une autre conséquence de ce Brexit, car l'Angleterre et le Pays de Galles ont en effet voté en majorité pour le Brexit, mais l'Écosse et l'Irlande du Nord se sont prononcés contre. Alors en effet, le Parlement écossais a autorisé la Première ministre Nicola Sturgeon à négocier avec Londres pour obtenir l'organisation d'un nouveau référendum pour l'indépendance de l'Écosse. Theresa May a déjà fait savoir qu'elle jugeait que ce n'était pas le bon moment pour un référendum et elle a en théorie le pouvoir de bloquer l'initiative. Mais s'opposer au vote du Parlement écossais serait compliqué à assumer sur le plan politique. Madame Sturgeon répète que ce serait totalement inacceptable. Nous avons parlé dans ce cadre à Nicola White, un ancien homme politique nord-irlandais.
I come from Northern Ireland myself. I've seen the border wither away as a practical.
Son analyse.
Alors, il explique que si les frontières sont rétablies, cela va rappeler de très mauvais souvenirs à beaucoup de personnes et qu'en plus, on se retrouve dans une situation où l'Écosse, par exemple, se retrouve retirée de l'Union européenne alors qu'elle a voté pour y rester. Il dit que la manière dont Theresa May et les conservateurs vont gérer cette situation va avoir des conséquences dramatiques et surtout, si la procédure sert davantage les intérêts des conservateurs, eh bien, ce sera d'autant plus difficile de vendre le fait que ce Brexit est une bonne chose pour tout le Royaume-Uni. Alors, le nouveau référendum pourrait se tenir dès l'année prochaine, voire printemps 2019, une fois que les conditions du Brexit seront un peu mieux connues. Donc clairement, c'est une affaire à suivre, sachant que les deux prochaines années vont être de toute manière mouvementées, que ce soit pour le Royaume-Uni, Theresa May, et certainement pour tous ceux concernés par ce Brexit.
Et oui, parce que Miguel Martins, finalement, les choses ne font que commencer. Il y a là le début d'un processus qui va donc durer 2 ans, et il va falloir négocier, négocier au plus dur entre Bruxelles et Londres.
Ça ne fait que commencer, nous avons donc pu joindre un interlocuteur à Londres qui pointe le changement de registre de la chef de l'exécutif britannique par rapport au discours qu'elle tenait jusque-là. Je vous propose d'écouter cet économiste qui est également président de la Chambre du commerce portugaise au Royaume-Uni.
Le ton de la carte et le ton du discours que la première ministre fait aujourd'hui au Parlement sont plus...
Il s'agit de Bernardo Cruz. Qu'est-ce qu'il dit?
Il nous dit que le ton de la lettre de Theresa May remise cette semaine à Bruxelles était nettement plus conciliateur, moins belliqueux que par le passé. La chef de l'exécutif britannique, en parlant cette semaine devant le Parlement, a été beaucoup plus en retenue. Par ailleurs, les Écossais, Cléa en faisait allusion à l'instant, tout compte fait acceptent le fait que le référendum sur l'indépendance par rapport au Royaume-Uni se fasse seulement finalement après l'issue de ces deux années de négociations, comme demandait Londres jusque-là. L'Écosse dira ainsi s'il est d'accord ou pas avec ce qui aura été négocié et obtenu donc entre Londres et Bruxelles. Mais là encore, le flou est total à ce stade, d'autant plus qu'en Irlande du Nord, le mécontentement est réel. On y a fait allusion également par rapport à l'issue de ce référendum britannique et le retour à une île divisée par une frontière entre la partie sous souveraineté de Londres et la République d'Irlande.
Et puis il y a autre chose, Miguel, c'est l'inquiétude de tous ces Européens qui travaillent au Royaume-Uni aujourd'hui et qui ne savent pas de quoi leur avenir sera fait.
Absolument, ce sont plusieurs millions. Mais là aussi, il y a deux cas de figure, comme nous le rappelait Bernardo Cruz. On l'écoute encore une fois.
Il y a deux types d'immigrants.
Donc cet économiste à Londres nous disait donc que les Européens séjournant au Royaume-Uni depuis plus de 5 ans sont rassurés. Ils pourront continuer à y résider, bien qu'ils doivent remplir un document fastidieux de 85 pages pour valider leur carte de séjour. Pour les autres, rien n'est sûr, que ce soit Londres ou bien la Commission européenne, l'un et l'autre ont fait savoir que l'une des premières priorités des négociations porte justement sur les 3 millions d'Européens qui résident au Royaume-Uni ou encore les presque 2 millions de Britanniques qui sont installés sur le continent européen. Et là aussi, ça se corse pour Londres. Tout devrait être réglé dans le cadre d'un paquet global de négociations. Mais pour Bruxelles, cette question et aussi le volet de l'argent que Londres devrait à Bruxelles, Cléa y faisait allusion, les fameux 60 milliards d'euros, cela devrait être pris à part par rapport à tous les autres volets qui seront mis sur la table.
Alors, il est intéressant maintenant de voir comment un pays très éloigné, la Chine, évalue tout cela. La Chine qui critique, dans son journal officiel, le Global Times, le fait que le Royaume-Uni veuille quitter l'Union européenne. En effet, beaucoup de Chinois tournent le dos au marché britannique, en tout cas pensent le faire, lorsque le Brexit sera devenu une réalité, Nina Wang.
Oui, en fait, M. Gong est responsable des affaires de l'Asie de l'Est de l'Agence de développement économique et d'innovation pour l'Hôtel de Ville de Paris. On l'écoute. Parmi les investisseurs asiatiques qu'il reçoit, une délégation immobilière de Hong Kong lui déclare sans ambiguïté que les entreprises qu'elle représente veulent s'installer désormais davantage dans d'autres pays de l'Union européenne. Et la raison, c'est que le Brexit va créer d'énormes conflits au niveau de taxes et d'échanges de personnel pour des entreprises hongkongaises. Les investisseurs de Chine continentale, quant à eux, ne font pas de lien spécifique entre le Brexit et leur volonté de s'implanter davantage en France ou en Allemagne. Mais ce qu'ils laissent entendre clairement, c'est que dans le futur, s'appuyer seulement au Royaume-Uni pour conquérir le marché européen, c'est non seulement imprévoyant, mais aussi inapproprié.
Alors, pour les Chinois, après le Brexit, la France deviendrait, par ricochet, une destination intéressante pour investir ?
En fait, la France est toujours une des destinations favorites des investissements chinois, mais c'est vrai qu'après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France peut faire encore plus pour attirer de l'argent chinois. On continue d'écouter ce que nous explique M. Gong. Monsieur Gong cite le PDG de Paris Europlace, c'est une organisation pour le développement de la place financière de Paris. Il rassure ses partenaires asiatiques en disant que Londres est très fort au niveau de la finance. Paris n'est pas moins fort que Londres, mais Paris n'a pas que de la finance à offrir et elle a aussi des réseaux de coopération.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'actualité de la semaine sur le Brexit. Bien évidemment, on en reparlera très certainement et très souvent dans Accent du Monde sur RFI.
Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de RFI. Les circonstances de la mort du chinois Liu Xiaoyao ne sont toujours pas claires. Dimanche dernier, il a été tué par un policier français lors d'une intervention chez lui à la suite de l'alerte d'un voisin à cause d'une histoire de bruit. Dans la foulée, la communauté chinoise de Paris s'est indignée, puis les choses se sont envenimées, il y a eu des manifestations et puis une tension diplomatique, Nina Wang. Revenons d'abord sur les circonstances dans lesquelles cet homme a été tué.
Oui Philippe, la police et la famille de Liu ont des différentes explications. Selon la police, ce père de famille de 56 ans était en train d'agresser un agent avec une paire de ciseaux. C'était pour protéger son collègue qu'un autre a tiré. Selon les résultats de l'autopsie, Liu a été touché par un seul tir en plein cœur par un six-sauer de 9 mm. Il s'agit d'une arme létale. Alors que la famille de Liu explique qu'il n'a blessé personne et qu'il se trouvait avec ses enfants et qu'ils étaient en train de tailler des poissons avec des ciseaux. On écoute la fille de Liu.
事件报告，我们目前还不知道。
Elle nous dit que la famille attend toujours le résultat final de l'autopsie car les analyses toxicologiques sont toujours en cours et que la famille s'effondre tout simplement.
Alors le policier qui est tiré maintenant en arrêt maladie, mais il n'a pas été suspendu, hein, comme le souligne et le déplore le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Hein. Où est l'enquête ?
En fait, la première enquête est à la police judiciaire pour la tentative d'homicide volontaire de Liu sur le policier et la deuxième est à l'inspection générale de la police nationale, donc la police des polices, pour connaître l'usage du policier de son arme, notamment pour savoir pourquoi il a utilisé une arme létale et non un pistolet à l'impulsion électrique dans de telles circonstances.
Alors je le disais, après ce décès, il y a eu des manifestations de protestation. Certaines ont mal tourné puisque 35 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Nina, combien de Chinois en France ?
En fait, entre 800 000 et 1 million de ressortissants chinois vivent actuellement en France, selon l'Institut national de la stratégie et des études économiques de France en 2009. Donc c'est difficile de généraliser la réaction de tous les Chinois en France, mais les associations des Chinois à Paris ont déposé une demande collective de commémoration paisible. Elles attendent toujours l'autorisation de la police avant de se rassembler demain sur la place de République de 15h à 18h. Il s'agit de la première fois que les associations organisent un rassemblement dit officiel après l'accident. On écoute Bun Dan, adjoint au maire du 13e arrondissement, lui étant aussi le président du conseil représentatif d'associations asiatiques de France.
Monsieur Dan appelle à la communauté asiatique à ne pas utiliser la violence pour se défendre et que les associations attendent toujours l'autorisation de la police pour le rassemblement de demain.
La victime était originaire de Wenzhou. Les Wenzhounais, qui constituent la majorité des Chinois qui vivent en France ?
Exactement. Les Wenzhounais étaient parmi les premiers Chinois à s'installer en France depuis la Première Guerre mondiale. Il y a aujourd'hui 337 000 Wenzhounais qui vivent en Europe. C'est un peuple qui se rallie beaucoup. Du coup, après la mort de Liu, plusieurs associations des Chinois en Hongrie, en Slovaquie, aux Pays-Bas, en Bulgarie, en Bologne, même en Serbie, etc. se sont déjà exprimées. Elles veulent que plus de l'éclaircissement soit vite fait sur la mort de leurs compatriotes.
Nina Wang de la rédaction chinoise de Radio France Internationale.
RFI.
Claire Borderst, la rédaction en anglais s'est concentrée cette semaine sur la crise humanitaire dont souffre le Tchad. Depuis le début du mois d'ailleurs, hein, un membre de la rédaction était sur place.
Oui, alors Laurent Angela Bagnetto a eu l'opportunité de se rendre au Tchad et est revenu avec plusieurs reportages sur la façon dont la crise est gérée. Un grand reportage sur l'éducation, un autre sur la distribution de nourriture par le Programme Alimentaire Mondial. Mais je voudrais attirer ce soir votre attention sur deux sujets particulièrement alarmants. Tout d'abord, je vais resituer un peu le contexte. Nous sommes dans la région du lac Tchad avec pour frontière le nord-est du Nigeria, l'ouest du Tchad et le nord du Cameroun. Ce sont les régions où Boko Haram sévit le plus. Il y a plus de 8000 Nigériens enregistrés au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un grand nombre d'entre eux ont fui les attaques de Boko Haram, attaques pendant lesquelles des milliers de personnes ont déjà trouvé la mort.
Et donc Laura Angela s'est rendue dans un camp de réfugiés.
Exactement, le camp de Dares Salam, près du village qui porte le même nom. Là, elle a rencontré beaucoup de réfugiés qui ont tous des histoires à faire froid dans le dos. L'un d'eux, Bilam Adam, un homme de 58 ans, a perdu toute sa famille, sa femme et ses sept enfants. Il explique que des gens les ont vus se faire enlever par les extrémistes.
Donc il raconte le détail de ce qui lui est
arrivé.
Exactement, il dit qu'il y avait deux garçons, les aînés d'une autre famille, qui étaient près du bord du lac Tchad, quand ils ont vu toute la famille qui était là réunie, et puis ils ont vu les soldats de Boko Haram s'approcher. Les deux garçons ont couru, se sont cachés dans les buissons près du lac, et ils ont tout vu lorsque les soldats du Boko Haram ont kidnappé sa femme et ses enfants.
Et ils ont donc dû tout quitter. Dans quelles conditions vivent-ils désormais dans ces camps de fortune ?
On va pas se mentir, les conditions sont très dures dans ces camps. Mais ce qui inquiète le plus les humanitaires aujourd'hui, c'est la question de la suffisance de nourriture pour subvenir aux besoins du grand nombre de réfugiés. Plus de 300 000 personnes se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire alarmante. Le Programme Alimentaire Mondial, associé à de nombreuses organisations sur place, tente tant bien que mal de combler cette insécurité. Mais depuis que le nouveau président américain Donald Trump a annoncé vouloir réduire drastiquement l'aide extérieure des États-Unis, avec l'Afrique en première ligne, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le Tchad, qui est quand même le deuxième pays le plus pauvre au monde. Alors Laurent Angela a pu rencontrer à N'Djamena Florent Méo, le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires pour le Tchad. On l'écoute.
Of course, the American funding is very important.
Quelles sont ses explications ?
Alors, il explique que, bien entendu, l'aide financière des États-Unis est très importante puisqu'ils sont les premiers donateurs au Tchad. Rien qu'en 2016, ils ont donné 133 millions de dollars, c'est à peu près 125 millions d'euros. Et conclut en disant que si les États-Unis réduisaient, voire supprimaient les fonds, cela aurait des conséquences inquiétantes sur toute l'assistance humanitaire dans la région. Laurent Angela a pu rencontrer beaucoup de réfugiés, elle a passé du temps avec eux, elle a aussi fait des reportages plus positifs comme celui sur l'éducation, ou encore sur des familles qui se sont retrouvées après des séparations forcées. De très beaux reportages que je vous invite vivement à écouter.
Et que l'on retrouve sur le site internet de RFI en anglais.
Exactement.
Dont l'adresse est
en.rfi.fr.
Voilà, c'était donc Claire Wanders de la rédaction anglaise, justement, de RFI. Les amateurs de foot, et ils sont nombreux à écouter Radio France Internationale, savent bien que, bien sûr, que Cristiano Ronaldo est portugais, l'un des plus connus au monde, si ce n'est le plus connu au monde. Le capitaine de la sélection lusitanienne de foot et attaquant du Real Madrid a déjà reçu à 4 fois le plus prestigieux trophée qu'est le Ballon d'Or. Et voilà, en plus de tout cela, Miguel Martins, qu'à seulement 32 ans, son nom vient d'être donné à un aéroport.
Et voilà, l'aéroport de son île natale, Madère, qui porte en effet désormais son nom. Une cérémonie en ce sens a eu lieu sur place, donc, au lendemain du match amical entre le Portugal et la Suède. C'était à Funchal, le chef-lieu de cette région autonome portugaise. C'est vrai qu'au Portugal notamment, les exploits de Cristiano Ronaldo font la quasi-unanimité, que ce soit avec son club madrilène ou avec la sélection qui s'est sacrée championne d'Europe ici en France contre le pays hôte. C'était le 10 juillet dernier. Cependant, le choix d'attribuer son nom à cet aéroport portugais, connu jusque-là surtout pour les atterrissages dangereux à cause de sa piste prolongée 2 fois au-dessus des flots de l'Atlantique avec des vents contraires, cela est bien loin de faire l'unanimité.
Alors si cet aéroport s'appelle Ronaldo, c'est à cause du gouvernement, du président du gouvernement régional de Madère, mais cela n'a pas plu à tout le monde. Il y a même eu une pétition de protestation qui a circulé.
Voilà, on y dénonçait une dérive liée à une euphorie sportive, ainsi on demandait le maintien du nom de l'aéroport portant seulement le nom de l'île, découverte par les Portugais en 1419, l'île au bois, Madeira en portugais, en allusion à l'abondante couverture végétale du territoire. Toutefois, les autorités régionales de Madère et nationales du Portugal ont tenu bon et l'officialisation s'est donc tenue en grande pompe. Elle a même été agrémentée de l'inauguration d'un buste du footballeur dans l'enceinte de l'aéroport. Une réalisation par ailleurs très décriée d'un sculpteur madérois, Emmanuel Santos, les critiques dénonçant à la fois le peu de ressemblance avec le footballeur et sa supposée laideur.
C'est quasiment une affaire d'État, hein. En tout cas pour le président portugais, CR7, alors CR7 c'est le surnom dans le monde de Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo, 7 étant le numéro de son maillot.
Absolument. Hein,
je ne me trompe pas, Miguel Martins.
Tout à fait.
Ronaldo est devenu synonyme d'excellence, finalement.
C'est du moins ce que Marcelo Rebelo de Sousa, chef d'État du Portugal, a tenu à souligner lors de cette cérémonie. Je vous propose de l'écouter.
Cristiano Ronaldo est un exemple d'excellence.
Donc Marcelo Rebelo de Sousa a souligné que Cristiano Ronaldo était un exemple d'excellence et que ce soit à titre individuel en tant que meilleur footballeur au monde, à titre collectif notamment en tant que capitaine de la sélection portugaise championne d'Europe. Cette excellence nourrit la fierté des Portugais. Actuellement, Cristiano Ronaldo assure un rayonnement à Madère et au Portugal tout entier sur les 5 continents comme personne d'autre. Cependant, la pratique courante fait que ce soit des noms de personnalités déjà décédées qui sont attribués à des infrastructures de cette envergure.
Alors est-ce que Ronaldo lui est content finalement au bout de tout cela ?
Ah oui, et comment, même s'il dit qu'il ne l'a pas demandé, il s'avère être très fier et très content, on l'écoute. Donc il remercie beaucoup les présents qui étaient là. Il se dit très fier de ses racines et de son cru. Il a toujours fait question de souligner le rôle du Portugal dans sa vie, notamment de Madère. Et lui, il est de l'avis que les hommages ont du sens lorsque les personnes récompensées sont en vie, comme c'est son cas.
Miguel Martins, de la rédaction Lusophone, et visiblement grand amateur de Ronaldo. Vous avez son maillot numéro 7 floqué, non?
Même pas, j'ai celui de la Guinée-Bissau.
Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde sur RFI.
Ici l'Europe.